Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
On peut passer à côté d'eux. À côté de nous, en effet, vivent des hommes aux vies extraordinaires. Ce sont des hommes qui ont un jour entrevu, compris, adhéré à ce qui fait l'envers de nos vies, des sortes de Gandalf, pour reprendre le nom d'un célèbre sorcier de la saga Harry Potter, aujourd'hui presque devenu une nouvelle religion pour nombre d'adolescents. Des Gandalf, donc, qui ont rien moins que reçu la grâce de pouvoir rendre présent Dieu dans le monde. Ces hommes, ces prêtres, font partie de nos vies. Ils sont là à labourer les terres de notre sud-ouest, à annoncer parfois dans le désert, la foi dans un Dieu, lui aussi si petit, si discret. Aujourd'hui, pour faire honneur à ces hommes de l'ombre, à ces paysans des âmes, je vous propose une émission sur l'un d'entre eux, un missionnaire dans le Quercy, récemment décédé, l'abbé Jean Gauzin. Jean Gauzin, une vie à annoncer le Christ dans le Quercy, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec un duplex depuis Cahors, où nous retrouvons donc Gilles Chevriot. Vous êtes éditeur, ancien responsable de la communication pour le diocèse de Cahors, et auteur donc d'un ouvrage intitulé « L'abbé Jean Gauzin, 69 ans de sacerdoce au service de tous », paru aux éditions Edicos. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Voilà, chaque trimestre, on essaye de faire deux émissions au plus près du terrain, en délocalisant l'émission Vivante Église. La semaine dernière, on était déjà à Cahors pour la clôture du jubilé des 900 ans de la cathédrale de Cahors. Très content d'être à nouveau, grâce à vous, en direct depuis ce diocèse. Alors Gilles Chevriot, vous avez choisi donc d'écrire sur la vie de cet homme, l'abbé Jean Gauzin. On va passer cette émission à découvrir ce prêtre du diocèse de Cahors, décédé en 2018, qui est né en 1914. Tout simplement pour commencer, je disais, donc vous êtes éditeur, vous êtes ancien responsable de la communication pour le diocèse de Cahors. Expliquez-nous pourquoi vous avez eu un coup de cœur pour ce prêtre.
Écoutez, l'abbé Jean Gauzin, je l'ai découvert avant d'être en mission auprès de Mgr Turini de 2013 à 2016, puisque un précédent livre avait fait l'objet d'une petite incursion de l'abbé Gauzin sur l'église de mon village d'Arcambal. Et c'est la première fois, finalement, que nous nous sommes rencontrés via cette publication. Et puis ensuite, eh bien, cette mission auprès de Mgr Turini pendant 3 ans m'a conduit aussi à être, on va dire, quelqu'un qui aussi intervient sur le terrain et au travers des émissions pour Radio Présence Cahors. J'ai eu l'occasion, bien sûr, de faire plusieurs enregistrements à ses côtés.
Qu'est-ce qui vous plaisait chez cet homme ? Qu'est-ce qui vous a décidé à passer autant de temps à relire sa vie ou à vous documenter sur sa vie jusqu'à écrire ce petit livre ?
Alors, en réalité, voilà, c'est quelques éléments qui aujourd'hui sont ont un peu disparu des relations humaines, c'est-à-dire la gentillesse, l'écoute, le temps passé à être l'un avec l'autre, d'échanger, de trouver toujours un petit retour qu'aujourd'hui nous n'avons plus. Nous communiquons dans la vitesse, nous ne prenons plus le temps, et grâce à lui, finalement, ce témoignage m'a beaucoup marqué. Et bien sûr, c'est tout naturellement que je lui avais proposé, compte tenu de son riche parcours que nous allons évoquer ce matin, peut-être de le consigner par écrit pour laisser un témoignage à ceux qui n'ont pas partagé ces 69 ans de vie chrétienne.
Alors de fait, hein, vous racontez que c'est un homme, il devait avoir ses défauts comme tout le monde, mais qui avait une certaine délicatesse. Par exemple, il prenait le temps d'écrire des petits mots. On imagine que quand on est vicaire général, puisqu'il a été vicaire général, on le découvrira pendant 25 ans pour le diocèse de Cahors, il a accompagné plusieurs évêques. Ça n'est pas sans... c'est une prouesse d'une certaine manière. On va commencer donc par évoquer le début de sa vie. Il était donc le fils de son père et de sa mère, ça tombe bien. Voilà, c'était deux personnalités, en tout cas son père, Joseph Jules Lucien. Il était préparateur en pharmacie, à Saint-Céré, puisque c'est là qu'est né donc Jean Gauzin. Saint-Céré, donc dans le Lot, il est né en 1900. il est né en 1924, hein, je me suis trompé hein, tout à l'heure.
Oui, de 10 ans tout à l'heure.
Voilà, je me suis trompé de 10 ans. Racontez-nous un peu qui était ce papa et cette maman qui étaient eux aussi des, on va dire, des Lotois.
Oui, alors il y avait quatre éléments porteurs finalement pour que l'abbé Gauzin soit celui qu'il a été pendant ses 69 ans de sacerdoce. Fils unique, de parents très engagés dans l'Église, vous en doutez un peu, qui étaient reconnus chacun dans leur responsabilité personnelle, le père professionnel de la santé, très engagé dans le monde culturel, très engagé dans le monde religieux, donc des passerelles très faciles pour justement permettre au plus grand nombre de participer, puisque à cette époque-là, c'était vraiment les participations de la commune tout entière pour les animations, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient laïques. Et puis la maman assurait le soir les surveillances, des devoirs des enfants, bien sûr, de son fils unique, mais aussi des enfants du quartier. Donc il y avait une perméabilité qui offrait toutes les chances pour que ces enfants puissent être bien entourés, bien conseillés, bien préparés pour leur avenir.
Donc des chrétiens, on lit aussi dans votre livre que les parents de Jean Gauzin donc, ouvraient largement leurs portes aux ecclésiastes. Alors c'était une époque où il y en avait certainement plus qu'aujourd'hui, donc ça facilitait les choses, mais en tout cas ils voyaient souvent passer des prêtres à la maison ou des religieux. Dites-nous quelques mots aussi du tempérament de son père et de sa mère. On peut avoir l'impression à vous lire qu'il avait, gardé le meilleur de chacun.
Oui, alors on va dire que le père était un
joyeux de riz, dites-vous.
Joyeux de riz, voilà, c'est ça, quelqu'un de très expansif, quelqu'un de très extraverti, alors que la maman, au contraire, était une dame beaucoup plus discrète, proche de ses voisins, qui avait plus le sentiment le choix de garder un œil très proche sur la vie de son fils, pour qui elle a tremblé, et le père Trivier l'a dit dans son mot d'accueil, elle a tremblé toute sa vie pour son fils, alors que le père, lui, était très proche, et au contraire, on va dire qu'ils formaient finalement tous les deux une sorte de bonne équipe, de joyeux de riz, et on le verra aussi, puisque le père s'est rendu à de nombreuses reprises dans des lieux où son fils accompagnait notamment des scolaires pour les camps de vacances.
Donc l'abbé Jean Gauzin avait donc un tempérament, on va dire, joyeux, il aimait la vie, à vous lire, et il avait hérité de la sensibilité aussi de sa mère, de sa finesse, même si, à vous lire aussi, et vous citiez celui qui a dit le mot d'accueil lors de ses funérailles, il avait peut-être une sensibilité plus contenue. Alors il a la vocation assez jeune, en réponse à une question tout simplement d'un prêtre, c'est parfois comme ça que ça se passe, ne voudrais-tu pas être prêtre, et puis quelques jours après, il répond, en tout cas dans son cœur les choses sont faites, il rentre au petit séminaire, donc à Gourdon, puis après il rentrera au grand séminaire à Cahors. C'est une autre époque aussi qu'on découvre en lisant votre livre. Hein. C'est une époque où il y avait un séminaire aussi dans votre diocèse, où il y avait un nombre de vocations. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette période du petit, du grand séminaire, ce que vous en avez vu, ce qui vous a marqué ?
Alors, bien sûr, j'ai pu consulter les quelques éléments qui restent aux archives diocésaines, notamment les cahiers de notes et les mentions données par les professeurs. On s'aperçoit très vite que c'est un bon élève du début jusqu'à la fin. Toujours de bonnes notes, bon camarade un des meilleurs élèves de cette moisson qui fait la course en tête avec certains de ses camarades.
Je vous cite, hein, oui. Classe de 6e, très sérieux, actif, docile, toujours le même. Classe de 5e, plus sérieux que son âge, consciencieux, très sensible. Et puis, à propos de ses camarades, un de ses camarades qui disait c'était un bon camarade, débordant de vie et de bonne humeur, parfois envahissant, mais attachant et idéaliste, disait un de ses camarades. C'est aussi dans un contexte particulier, en fait, puisque il a connu la période d'occupation et il fait en partie donc ses études ou son séminaire pendant cette période. Qu'est-ce que vous avez vu ou relevé de cette période très spéciale quand même?
Par exemple, il est déjà proche des plus jeunes, c'est-à-dire que par exemple en 1944, Et ce n'est pas dans l'ouvrage, mais c'est un ami collectionneur qui m'a transmis une carte postale d'échange avec ses parents. En 1944, il part au grand séminaire de Limoges pour accompagner un groupe d'enfants, 80 gamins, comme il marque sur sa carte, 9 abbés pour l'encadrement. Et déjà en 1944, c'est-à-dire 4 ans avant sa nomination, son ordination plutôt, il est déjà dans les mouvements de jeunesse qu'il ne cessera jamais pendant de très nombreuses années de fréquenter. Alors, voilà. On le sent déjà près des enfants.
Ma question, c'était davantage, est-ce que cette période de l'occupation, est-ce que cette période de la guerre, on a trace de la manière dont ça l'aurait marqué ?
Écoutez, du fait de sa classe, il n'a pas fait son service militaire. Je le relate simplement un fait particulier, à savoir qu'il a échappé, ainsi que certains de ses camarades, la division d'Asreich qui était dans le Lot et qui a fait beaucoup de dégâts, notamment à Figeac. Et ils ont été d'ailleurs sauvés par des paroissiens qui les ont mis à l'abri alors qu'ils étaient dans l'église pour assister à une célébration.
Voilà, et vous dites que
c'est le seul élément de la guerre.
Vous dites que cette division, de fait, a emporté 540 prisonniers, donc on peut dire qu'il a été, je ne sais pas si c'est miraculé, mais en tout cas épargné par la guerre. Alors il est ordonné en 1948, et puis après, donc il y a cette longue vie sacerdotale, 69 ans de vie sacerdotale. Il est mort en 2018, d'ailleurs 48-2018, ça fait 70 ans, non ? C'est qu'il manquait juste quelques mois.
Non, c'est-à-dire qu'en réalité, il a eu un accident de santé lorsqu'il était aumônier du Carmel, et il a passé pratiquement un an de maison de santé en EHPAD, et c'est pour cette raison que
vous avez mis 69 ans.
Voilà, exactement.
Alors, sa vie sacerdotale, difficile de résumer, et puis après, à la première pause, on mettra l'accent sur quelques aspects de cette vie-là. Il prend tout de suite des responsabilités, il est très engagé dans les mouvements de jeunesse, je le résume comme je l'ai compris. Ses responsabilités font qu'il devient relativement rapidement vicaire épiscopal, c'est en 1974, puis vicaire général, et il sera en vicaire général donc pendant 25 ans. Il a vu passer un certain nombre d'évêques, il a été aussi aumônier de prison, aumônier de la prison de Cahors pendant plus de 40 ans. Qu'est-ce que vous retenez, on va dire, les deux, trois grandes choses marquantes de cette vie de prêtre au long cours ?
Alors tout d'abord, c'est quand même la première nomination au aumônier fédéral de l'enfance. C'est ça que je crois qui l'a marqué, parce que les jeunes à cette époque-là avaient besoin d'un encadrement. Tous les enfants ne rentraient pas chez eux au moment des vacances, notamment pour les week-ends. Et donc les prêtres s'en occupaient énormément et leur ont fait découvrir finalement les éléments de leur âge, c'est-à-dire les lectures, les premiers films, et je crois que ça a marqué tout un pan de la jeunesse de Cahors, d'avoir cet encadrement qui ensuite s'est poursuivi avec les mouvements d'église, notamment la JOC. Alors bien sûr, vous faites état de ces nominations au vicaire général, où il était effectivement le second, le bras droit des évêques qui se sont succédés. Ensuite, effectivement, un fait important, c'est que l'abbé Gauzin n'a jamais été curé d'une paroisse en milieu rural. Il s'est occupé bien sûr de Cahors, où il était tout près des évêques en même temps. Mais
alors les évêques, on peut peut-être les citer. C'est donc Monseigneur Rabin pour un temps, Monseigneur Maurice Guédon, et après Monseigneur Turini, même s'il est parti.
Oui, voilà, c'est ça. En réalité, il était déjà, voilà, en 2001, pour des raisons d'âge, il a donné sa démission. Et c'est vrai que, en fin de compte, le dernier évêque qu'il a secondé, c'était quand même Monseigneur Guédon.
Il n'était plus
vicaire général avec Monseigneur
Turini. D'accord, autant pour moi, oui.
Je vous en prie.
Donc vous aviez insisté. Voilà, donc, départ, il y avait, oui. 25 ans vicaire général, un exploit, vous dites dans votre livre. Qu'est-ce que vous pourriez nous partager là-dessus ?
Un exploit, parce que il y a peu d'exemples à l'identique. Ça veut dire que les évêques ont très vite compris que l'abbé Gauzin était un bras droit d'importance. qu'ils avaient besoin de lui. C'était une époque où, effectivement, les deux personnages pouvaient cheminer ensemble, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le vicaire général a sa vie propre. Souvent, il a plusieurs fonctions à assurer en même temps, alors qu'à l'époque, les deux hommes se rendaient souvent pour des célébrations sur le terrain, pour des réunions, qui étaient souvent d'ailleurs souvent au Rocher, au Camadour. Ça, on le voit, c'est aujourd'hui, tous ces éléments-là ont énormément, cette vie a énormément changé. Et donc, c'est pour cette raison que les évêques, au fur et à mesure de leur passage, se sont transmis, on va dire, les bons moyens pour fonctionner normalement.
Aumônier des prisons, peut-être vous pouvez finir avant qu'on fasse une première pause. Il a été aumônier de la prison de Cahors pendant 40 ans. C'est semble-t-il, ça n'est pas une grande prison, mais c'est quand même un grand service.
Alors, c'est une maison d'arrêt à taille humaine. En réalité, il a fait 46 ans de service, puisqu'il a été d'abord aumônier adjoint. Il était également très apprécié. Les témoignages que j'ai pu recueillir auprès de gardiens qui l'ont... qui ont travaillé avec lui, montrent que c'était un homme tout à fait exceptionnel. Un détail particulier, l'aumônier reçoit de l'administration pénitentiaire une participation financière mensuelle, et chaque mois, il allait au secrétariat pour faire en sorte que cette somme-là soit réaffectée à des aides aux prisonniers. Il ne garnait pas un franc pour lui.
On va faire une première pause. Gilles Chevrieux, je rappelle le titre de votre livre, L'abbé Jean Gauzin, 69 ans de sacerdoce au service de tous, paru aux éditions Edicos. On vous retrouve tout de suite après, on va évoquer quelques aspects de sa vie. Un homme à l'aise avec les plus petits comme avec les grands, serviteur des pauvres, intime des évêques. Et puis de fait, ce qui touche surtout dans ce livre, c'est qu'on découvre un petit peu l'envers du décor de la vie d'un évêque et cet homme qui a su accompagner avec délicatesse plusieurs évêques du diocèse de Cahors afin de les aider à accomplir ce grand service.
Emmanuel Pella.
Jean Gauzin, une vie a annoncé le Christ dans le Quercy. C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission depuis Cahors, en duplex en tout cas, depuis les studios de Cahors, avec Gilles Chevriot qui est éditeur, ancien responsable de la communication pour le diocèse de Cahors, et auteur donc d'un livre intitulé « L'abbé Jean Gauzin, 69 ans de sacerdoce au service de tous », et on aurait pu dire au service de tous, donc dans le pays du Quercy, paru aux éditions Causse. On s'est dit donc qu'on allait maintenant mettre l'accent, Gilles Chevriot, sur quelques aspects de la vie de ce prêtre. Entre autres, le fait qu'il était à l'aise avec les petits comme avec les grands. Alors les grands, évidemment, ça dépend ce qu'on met derrière ce terme, mais on s'entend. Vous avez une préface de Martin Malvy, qui est ancien ministre et ancien maire de Figeac, qui a un mot très chaleureux à l'égard de cet abbé Jean Gauzin. Il finit son mot avec la chose suivante. Il respectait, c'était un homme d'une grande ouverture d'esprit, sans une once de dogmatisme, avec la même modestie, je vais y arriver, qui faisait de lui un homme affable et serviable, dont nous avons gardé le souvenir. En faisant cet ouvrage, vous avez eu plusieurs témoignages comme ça de personnalité. Il avait l'art de savoir mettre tout le monde à l'aise.
Oui, c'est vrai. C'est une définition qui lui va tout à fait. Et quelles que soient les personnes rencontrées, interviewées, laïques, prêtres, en charge de responsabilité ou non, tout le monde avait ce petit mot, c'était un homme discret, c'était un homme affable, c'était un homme conciliant tout et toujours qui pouvait apporter, si nécessaire, une pointe d'humour. Ça, je pense que beaucoup l'ont relevé. Je crois que ça lui a beaucoup servi finalement dans sa vie sacerdotale.
Ah, c'était un homme chaleureux, hein, comme peut l'être le Sud-Ouest. Est-ce que vous pouvez raconter cette anecdote que vous avez donnée à la vie quercinoise dans une interview qui a été publiée en novembre dernier, où un soir de l'année 2001, il croise Maurice Faure, qui a été ministre de François Mitterrand, dans les rues de Cahors.
Ce n'est pas moi qui ai relaté cette interview. Je pense que c'est un journaliste de la vie quercinoise, mais je crois qu'effectivement il se posait beaucoup de questions sur l'après. Au-delà, non, je n'ai. Alors justement, j'aurais bien voulu.
Alors je vais vous aider parce que donc l'interview est en effet de vous, mais c'est vrai que c'était son avant-propos, donc je vous ai un peu piégé. Donc Maurice Faure, ministre de François Mitterrand, donc un soir de l'année 2001, se promenait dans les rues de Cahors. Il faisait un tour en ville pour s'aérer, disait-il. J'étais en train de me poser des questions métaphysiques et puis il croise donc l'abbé Gauzin. Il lui dit la chose suivante: je fais depuis longtemps de beaux discours d'adieu aux maires, conseillers généraux, députés, mais un jour, Maurice, ce sera mon tour. Et il lui a demandé qu'y a-t-il après. Est-ce que vous avez d'autres témoignages? Je pense entre autres à un autre maire de Figeac que vous citez, Madame Nicole Polo. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle a dit de l'abbé Jean Gauzin?
Écoutez, c'est un témoignage relativement court qu'elle a dit, mais effectivement, elle ne l'a pas fréquenté directement, mais elle signale simplement qu'elle avait eu des relations excellentes avec lui et qu'effectivement, il avait toujours, toujours dans son caractère très affable, il ne manquait pas toujours d'avoir un petit sourire malicieux. Voilà ce qu'elle disait en quelques lignes sur ce témoignage.
Alors, si Maurice Faure, ça n'était pas de vous, et si Nicole Polo, son témoignage était court, vous qui avez passé du temps, alors qu'est-ce qui vous vient pour illustrer comme autre personnalité que vous avez pu rencontrer et qui dit cette facilité qu'il avait d'être à l'aise avec les petits comme avec les grands?
Écoutez, c'est surtout le témoignage de Monseigneur Turini que j'ai rencontré lors d'un voyage à Perpignan.
Donc Monseigneur Turini qui est l'ancien évêque de Cahors, hein.
Voilà, qui a été évêque derrière Monseigneur Guédon de 2004 jusqu'en 2015, voilà, et qui effectivement dans cet échange que nous avons eu, effectivement, il disait déjà que Monseigneur Gauzin, puisqu'on pouvait lui donner le titre de Monseigneur, il a été prélat de sa sainteté, ce que nous n'avons pas encore indiqué, c'était un personnage incontournable dans le diocèse, voilà. Il était écouté, il était respecté des responsables départementaux. La fidélité aussi, c'était un... Voilà, il avait une spiritualité d'incarnation et il était finalement disponible pour tous, que ce soit les croyants ou les non-croyants. Donc c'était vraiment un personnage très ouvert et vraiment accessible pour tous, et il était compris de tous. C'est ce que disaient aussi beaucoup les paroissiens, puisque j'ai rencontré aussi des paroissiens et des paroissiennes qui participaient à aux célébrations, et ça c'était très important pour ces personnes.
Alors après serviteur des pauvres, qu'est-ce que vous avez pour illustrer cela? J'ai souvenir un moment dans votre livre, vous disiez qu'il avait accompagné le Secours catholique ou travaillé à son développement dans le Lot, et qu'il avait parfois un peu les poches percées, et que la religieuse ou la personne en charge des comptes pour le Secours catholique s'arrachait parfois les cheveux. Qu'est-ce que vous avez de signifiant dans sa vie qui dit cette attention et cette grande générosité qu'il avait à l'égard des plus pauvres d'entre nous?
Voilà, donc je l'ai signalé tout à l'heure lorsque on a parlé de son poste d'aumônier de la maison d'arrêt. Effectivement, il reversait l'intégralité de la somme mensuelle qui lui était allouée par l'administration pénitentiaire. Mais il collectait aussi des fonds auprès de tous les paroissiens qui avaient des moyens pour pouvoir les redistribuer aux pauvres. Il n'hésitait pas à aller sur le terrain. Et notamment, il fréquentait aussi assidûment les gens du voyage qui avaient bien besoin de cette aide, parce que d'abord ils étaient logés dans des conditions précaires, dans des lieux qui étaient souvent malheureusement insalubres, et les personnes que j'ai pu rencontrer aussi qui ont été témoins de cette générosité on dit vraiment le plus grand bien de l'abbé Gauzin, qui n'hésitait pas à être vraiment quelqu'un de très ouvert, qui les accueillait notamment lors des Noëls, et qu'il faisait venir les enfants, les familles en centre de Cahors pour les crèches, pour les célébrations. Et ça, je crois que ça a marqué aussi beaucoup ces personnes déshéritées. Et certaines personnes ont été d'ailleurs même, on va dire, aidées jusqu'à leur trouver un logement, leur trouver du travail. Et certains sont d'ailleurs restés en mouvement. Et il y a quelques témoignages dans l'ouvrage qui indiquent que effectivement, grâce à cette main tendue en permanence, beaucoup ont pu construire leur vie.
Alors je cite à propos des gens du voyage, hein, dans votre livre, il y avait donc un camp, semble-t-il, donc à Cahors, le camp de Port-Marie. Et quelques-unes des personnes qui étaient dans ce camp disaient que l'abbé Gauzin était le seul prêtre à se déplacer en ce lieu isolé de Cahors, et à chaque fois toute la communauté manouche était heureuse de se rassembler autour de lui. Et puis elle ajoute: à chaque fois que nous avions besoin de l'abbé, il répondait fidèlement. Si nous venions frapper à sa porte à l'évêché, point besoin de rendez-vous, il nous recevait. Et on imagine que c'était un sacré tour de force, parce que quand on est vicaire général, en général on a un agenda plutôt serré. Dans l'interview à la vicaire sinoise, à un moment vous laissez entendre: on m'a aussi témoigné une persistance tenace, parfois trop tenace, dites-vous, point d'interrogation, à quémander des aides auprès de tous pour les plus pauvres qu'il rencontrait. Il était comme ça constamment en train de, on va dire, de secouer les uns les autres pour aider l'un ou l'autre. Qu'est-ce que vous entendiez par ce propos?
Oui, beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer, et aussi des prêtres d'ailleurs, m'ont indiqué qu'ils n'hésitaient pas à solliciter la générosité auprès de tous pour pouvoir redistribuer dans l'instant les aides que les plus démunis avaient besoin. Des personnes venaient même sur les derniers instants de son parcours au Carmel de Figeac et la sœur Tourière qui s'occupait de lui au Carmel me disait qu'effectivement il y avait beaucoup de tireurs de sonnettes qui venaient pour quémander des euros pour une aide, pour un achat de, alimentaire, même y compris mettre quelques euros dans du carburant pour les voitures. Vous voyez jusqu'où ça allait et il a fallu d'ailleurs l'intervention de l'évêque pour faire que certaines insistances puissent s'arrêter parce que ça devenait très très compliqué pour lui.
En tout cas, il était connu pour ça, c'est-à-dire que les gens, à vous entendre, voilà, savaient que s'il y avait un homme vers lequel il fallait se tourner, c'était entre autres l'abbé Jean Gozin. Quand vous dites trop tenace, point d'interrogation, ça veut dire quoi ? Est-ce que vous avez un souvenir précis ? C'est-à-dire que c'était aussi un homme qui parfois, on va dire, a insisté et qui provoquait, qui secouait un petit peu ses proches, ses fidèles sur ce sujet ?
Alors, je ne pense pas qu'il assaillait quand même les fidèles ou les personnes vers lesquelles il s'adressait pour obtenir des aides, pour les reverser aux plus démunis. Mais enfin, il n'hésitait pas à les solliciter autour de lui parce que il se sentait finalement redevable d'aider. C'était son leitmotiv au quotidien. Il fallait qu'il apporte une réponse immédiate à ceux qui en avaient besoin. Et effectivement, il y a eu des abus. Donc c'est pour ça que des fois, il était aussi de son côté un peu insistant. Les choses étaient comme ça et il fallait les vivre ainsi.
On comprend en tout cas. C'était un homme d'une grande générosité. C'était... Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle de son intimité avec les évêques, puisque donc on l'a dit, cet homme a été vicaire général dans le diocèse donc de 1978 à 2003, 25 ans. Il a accompagné donc Monseigneur Rabin, qui a été évêque du diocèse entre 73 et 86, soit pendant 13 ans, et puis Monseigneur Maurice Guédon, donc de 87 à 2004. Alors il y a un passage assez touchant dans votre livre à propos de Monseigneur Rabin où il dit la chose suivante. C'était un grand nerveux, agité, inquiet. C'est pas lui qui parle, hein, que le calme de l'abbé s'avait apaisé et ainsi dédramatisé certains événements. Et puis il y a l'un ou l'autre passage dans votre livre où on sent en fait la manière qu'il avait de prendre avec tendresse et avec patience ces évêques. Ça m'a marqué parce que les évêques, on les voit souvent de loin. Et puis aujourd'hui, on peut dire qu'ils n'ont pas toujours bonne presse, c'est-à-dire qu'on s'en prend vite à eux. Là, on sentait un homme qui était presque un ami, non, pour ces évêques.
Oui, c'est ça. C'était effectivement, le vicaire général et l'évêque d'abord avaient la chance, c'est-à-dire d'habiter dans le même espace, puisque vous connaissez un petit peu la configuration des bâtiments diocésains à Cahors.
Pas du tout,
la Chartreuse,
pas du tout.
Et
non,
la
non.
Rue Frédéric-Suisse.
On n'est pas de là-bas, donc...
Voilà. Alors en réalité, voilà, c'est un même espace. Et je crois que ce n'est pas un fait spécial au Lot. Je pense que dans d'autres départements, il va de même. Donc en réalité, ils habitaient chacun dans une aile des bâtiments avec un jardin central. Et lorsque l'un avait besoin de l'autre, il suffisait d'ouvrir la fenêtre et de descendre dans le jardin, se rencontrer, bavarder, échanger, trouver une solution pour une difficulté. Et c'est ce qui faisait cette intimité qui permettait à l'un et à l'autre de fonctionner facilement, de fixer des rendez-vous pour des déplacements, pour des réunions, et de résoudre très rapidement toutes les difficultés du quotidien qui pouvaient survenir.
Mais Gilles Chevriot, ça c'est le travail, on va dire, normal du vicaire général. Dites-nous un mot de l'intimité qu'il avait su créer et de cette tendresse délicate qu'il avait à l'égard des évêques.
L'intimité, c'est parce que ils bénéficiaient l'un et l'autre de la communauté religieuse des filles de Jésus qui était installée également dans les lieux et donc qui leur permettait de converser, de de prendre leur repas ensemble, ce qui était important, en fin de compte, voilà, c'était une intimité qui n'était pas liée simplement à cheminer dans un lieu, dans un autre, dans la même voiture, ou de concélébrer un service dans une église, mais c'était aussi le fait de pouvoir parler tranquillement autour d'un repas et de pouvoir finalement vivre dans le même espace, y compris même peut-être des soirées après le repas, et de poursuivre finalement la conversation.
Voilà,
c'était ça un petit peu le caractère intimiste finalement.
Dites-nous un mot de ce qu'a dit Mgr Robert Turini. Il n'était plus vicaire général à ce moment-là, mais Mgr Turini arrivé dans le diocèse, donc c'est l'évêque précédent de Mgr Camiade, actuel évêque du diocèse de Cahors, l'a pris pour accompagnateur, pour père spirituel. Il dit de lui qu'il l'a aidé en fait à devenir évêque. Dites-nous un peu plus de ce qu'il vous a confié à propos de Mgr Jean Gauzin avant qu'on fasse une deuxième pause musicale.
Ben, je crois que c'est finalement d'abord parce que pour Mgr Turini c'était sa première nomination, et il s'est vite rendu compte que l'abbé Gauzin était un homme incontournable. Et grâce finalement à sa grande connaissance du terrain, des hommes, de la vie diocésaine depuis son ordination, et finalement il en a bénéficié, il a compris très vite que grâce à ce soutien, finalement ça lui a permis d'être pendant ces 10 années un évêque aussi lui-même, on va dire, très, très écouté dans le diocèse. Donc voilà, il a finalement puisé certaines forces au sein du vicaire général qui terminait sa carrière lorsque son sacerdoce, lorsque le Mgr Turini lui commençait sa vie d'évêque dans le Lot.
Alors je cite Mgr Turini: un évêque a 3 missions principales à remplir: l'enseignement, la sanctification, la gouvernance. Il a su les compléter pour certains évêques sans pour autant prendre leur place. C'était un homme attachant qui ne vous laissait pas indifférent. Son grand désir était de se donner à tous, ce qu'il a accompli jusqu'au bout de ses forces. On va faire une deuxième pause musicale avant de vous retrouver et d'aborder l'un ou l'autre aspect de sa vie. Je rappelle le titre de votre livre, l'abbé Jean Gauzin, 69 ans de sacerdoce au service de tous, paru aux éditions Causse. Thank you.
Présence dans le Lauragais 97.9.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Jean Gauzin, une vie a annoncé le Christ dans le Quercy. C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en duplex depuis nos studios de Cahors, avec Gilles Chevriot, éditeur, ancien responsable de la communication pour le diocèse de Cahors, et auteur donc d'un livre, l'abbé Jean Gauzin, 69 ans de sacerdoce au service de tous, pour ceux qui nous prendraient en cours de route, paru aux éditions, non pas Cos, mais aux éditions Edicos. Gilles Chevriot, dans cette fin d'émission, on s'est dit qu'on allait essayer de montrer encore plus, on va dire, la face intime de cet homme, même si votre livre n'a pas d'abord ce propos, et puis peut-être de parler un peu plus à la première personne, parce qu'on imagine qu'on passe pas du temps sur la vie d'un homme sans avoir ses raisons. La première chose, je reprendrai le mot de Monseigneur Turini dans votre livre. Vous disiez qu'il dit j'ai découvert qu'il était incontournable, qu'il était la mémoire du diocèse, donc Monseigneur Turini, ancien évêque de Cahors, et puis que c'était un acteur de l'Église post-conciliaire. À vous lire, en fait, on voit que c'est une grande figure d'une certaine Église, en fait, hein, l'Église, on va dire l'Église du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Église de l'Action catholique. Comment vous caractériseriez cette figure de prêtre d'une, on va dire, d'une église un peu d'un autre temps, hein?
Oui, alors on parle effectivement post-conciliaire, on parle un petit peu du concile, d'ailleurs c'est lui qui en fait état, et aussi d'ailleurs l'abbé Trivier dans son propos où il dit qu'effectivement on sentait bien dans les propos qu'il avait bien vécu cette période et qu'il avait beaucoup aidé certains de ses confrères à vivre les changements, notamment sur la liturgie et les rapprochements avec les autres confessions, les modifications structurelles dans les églises. Voilà, tous ces éléments sont amenés par lui. Il en parle aussi dans un chapitre que j'ai intitulé « À la lumière de Saint-Cirgue », où il fait état effectivement du compagnonnage avec les prêtres qui sont installés dans les paroisses, où il parle de la période des années 68, où il indique que les prêtres ne sont plus revêtus de leur soutane, que les intérieurs des églises se transforment, que la chaire n'est plus le lieu de la prédication, que la messe maintenant est dite et célébrée en français.
Alors il avait des mots aussi un petit peu plus francs, hein, quand il parle, il évoquait comme ça le Concile Vatican II, et puis on va dire l'invitation que le Concile a lancée aux fidèles de se mettre en marche. Il disait l'Église est un peuple en marche, il ne suffit pas de regarder passer la procession, il faut rentrer dans les rangs. Il avait une manière aussi comme ça humoristique d'inviter à vivre le concile. Vous citez aussi un autre passage du cardinal Marty, c'est lui, hein, qui parle du cardinal Marty. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce passage qu'il cite dans cette lettre dont vous nous parlez?
Oui, tout à fait. Le cardinal Marty déclarait, voilà, j'aime l'Église, elle ne m'a pas déçu, j'aime l'Église au soir de ma vie, comme l'heure où ma mère m'apprenait à faire le signe de la croix. Voilà, il était effectivement carrément dans cette direction. Et c'est vrai que il disait ensuite, celle de l'homme qui est allé au bout de son sillon et constate au premier mois de l'été qu'il ne s'est pas trompé. Ça, c'était vraiment pour lui important de souligner ces éléments.
Est-ce que c'était, on va dire, on peut résumer un prêtre de la génération de l'Action catholique, ou est-ce que c'est un peu court de le présenter comme tel?
Non, c'était le début des mouvements d'Église, effectivement, et il les a d'ailleurs tous traversés. Il a été aussi avec les indépendants, il a aidé aussi les mouvements qui étaient proches de la fonction publique, il a travaillé aussi auprès de par exemple des mouvements liés au monde des postes. Voilà, il était présent vraiment partout, avec les indépendants aussi, les familles rurales, enfin voilà, on peut citer tous ces mouvements dont certains n'ont n'ont pas eu de suite aujourd'hui, qui ne sont plus, on va dire, en fonction. Mais par exemple, encore des mouvements qui aujourd'hui ont encore une importance sur notre diocèse. Par exemple, je vais citer le mouvement chrétien des retraités, dont les paroissiens appréciaient beaucoup ses prédications et son accompagnement, le mouvement qui est sur son secteur de Saint-Céré, Lourdes, Cancer, Espérance, avec ses accompagnements lorsque ce mouvement se rassemble, notamment au Mont-Saint-Joseph, qui est aussi un lieu très apprécié des Lotois. Voilà, il a été jusqu'au bout, finalement, proche des paroissiens au travers des mouvements. Alors, il y avait les mouvements de création après le deuxième conflit mondial qui se sont créés, et puis il y a encore des mouvements aussi encore aujourd'hui très proches et qui ont encore bénéficié jusqu'à son dernier souffle de son accompagnement.
Alors il y a quelques propos dans votre livre qui parlent d'une forme de sainteté. C'est Monseigneur Turini qui a ce mot, je crois que l'une ou l'autre personne aussi à un moment utilise ce terme. En sortant de cet ouvrage, après l'avoir écrit, qu'est-ce que vous avez glané? Qu'est-ce qui, dans sa vie, c'est quand même audacieux, hein, canoniser quelqu'un lorsqu'il est mort, c'est toujours une entreprise périlleuse. On le sait bien avec parfois toutes les mauvaises surprises qu'on peut avoir en ce moment sur certains des fondateurs de grandes communautés post-conciliaires. Qu'est-ce qu'on peut relever dans sa vie, cette forme de sainteté dont parle Monseigneur Turini, quelle était-elle ?
Bah, écoutez, parler d'une forme de sainteté, c'est un peu, on va dire, compliqué de pouvoir la donner comme ça, d'une manière un peu générale. Mais bon, une forme de sainteté, c'est quoi ? C'est une vocation, c'est un appel là où Dieu vous attend. Et je pense que finalement, si c'est valable pour un prêtre, c'est aussi valable pour un chrétien, c'est-à-dire qu'on est appelé finalement par Dieu d'avoir une mission, de la remplir, d'être attentif à l'autre.
Gilles Chevriot, on voit ce que c'est que l'appel à la sainteté. Moi, ma question, c'est pour Jean Gauzin. Quelle est cette bonne odeur qu'il a laissée? Quand Monseigneur Turini parle d'une forme de sainteté, quand d'autres disent ça, qu'est-ce que ça veut dire en fait?
Bah, écoutez,
qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous en avez compris?
Qu'est-ce qu'on a compris? C'est qu'il a apporté un soutien à tous. Il a fait le bien autour de lui. Il a été une source de paix. Ça, c'était très important. Et puis, il avait une disponibilité permanente. Voilà, pour moi, ce sont des formes de sainteté. Comment les expliquer davantage, si ce n'est que par un parcours très riche, ouvert à tous, sans exclusive.
La paix, est-ce que vous pouvez développer un peu? On disait qu'il avait un tempérament de diplomate, d'arrangeur. C'était une question de tempérament ou vraiment il avait l'art de réconcilier et de faire la paix autour de lui?
Oui, je pense que c'était une de ses grandes qualités, puisqu'effectivement, lorsque l'on doit prendre une décision et qu'on est plusieurs, chacun s'exprime, et lui, il était très pragmatique, voilà, sans souci particulier par rapport à sa propre carrière. Voilà, ce qu'il souhaitait, c'est que les choses puissent s'arranger, qu'on puisse trouver une solution qui puisse convenir au plus grand nombre, et c'était ça, finalement, sa grande force, et que beaucoup s'en remettaient à la décision qu'il pouvait apporter, aux éclairages qu'il pouvait apporter et qui finalement arrangeait tout le monde. Il était une sorte de départiteur finalement des différentes expressions d'un groupe et de pouvoir faire en sorte que ça puisse convenir au plus grand nombre.
Alors c'est probablement pour ça aussi qu'il a été nommé, vous l'avez dit, en 1990, prélat de sa sainteté. C'est un titre honorifique que donne Rome à certains prêtres, signe, on va dire, de reconnaissance pour la fécondité de leur sacerdoce. C'était donc sous le pontificat de Jean-Paul II. Et puis on peut dire aussi, même si ça n'est pas du tout un gage de sainteté, qu'il a été fait chevalier de l'Ordre National du Mérite en 1991, preuve aussi donc de son rayonnement au-delà de l'Église. J'aimerais qu'on finisse l'émission sur la fin de sa vie. Vous avez un mot dans votre livre, non, le mot n'est pas de vous, il est du père Georges Trivier, qui est donc en l'église Saint-Spéry le 8 janvier 2018, le jour de ses funérailles, dit la chose suivante: il est descendu très vite dans la nuit de l'esprit, à la fin de sa vie, laissant entendre que la maladie, voire même peut-être que le doute, l'ont assailli. Alors, quelle a été la fin de cette existence où on a l'impression qu'il y a une parenthèse noire?
Alors en réalité, voilà, il faut savoir que le père Gauzin était un homme très autonome, c'est-à-dire qu'il avait une voiture, il se déplaçait, lorsqu'on l'appelait, il montait dans sa voiture et il partait répondre à la demande qui lui était exprimée. Et malheureusement, le petit accident de santé qu'il a eu lors de son dernier séjour au Carmel de Figeac, où il est resté aumônier pendant 16 ans, a fait qu'on n'a pas permis qu'il puisse prendre sa voiture. Il donc s'est senti dépossédé de ce moyen de locomotion. Il s'est senti un petit peu prisonnier d'un lieu où il a été effectivement soigné très bien pendant presque un an. Et c'est vrai que sa perte d'autonomie était quelque chose qui l'a marqué énormément. D'ailleurs, j'ai eu accès au courrier qu'il échangeait avec sa famille et il supposait que peut-être on allait lui mettre à disposition une voiture adaptée pour qu'il puisse encore garder un peu d'autonomie. Mais il a malheureusement compris très vite que cela ne serait pas possible.
Mais alors, qu'est-ce que ce père entend lors de l'homélie de ses funérailles? Il est descendu très vite dans la nuit de l'esprit. Ce n'est pas qu'une question de ne pas pouvoir se déplacer en voiture, on imagine.
Non, bien sûr, mais enfin, disons que les personnes qui lui ont rendu visite, dont j'ai été, ont vite compris qu'il n'était plus présent et qu'il ne répondait plus de manière normale aux paroles qu'on pouvait lui adresser. On comprenait qu'il se fermait petit à petit et que le dialogue devenait de plus en plus difficile. Et malheureusement, c'est la maladie qui s'était installée, maladie qu'il n'avait jamais d'ailleurs eue, puisqu'il était un homme très, très, très solide, qu'il n'avait d'ailleurs, le père Trier le dit, il n'avait jamais connu le médecin. Mais malheureusement, sur la fin de sa vie, il est parti très vite.
Voilà. Eh ben, merci beaucoup Gilles Chevriot de nous avoir fait découvrir donc, cette figure. Jean Gauzin, né en 1924, décédé en 2018, abbé au long cours, prêtre au long cours dans le Quercy, dans le Lot. Je finirai en citant Florent Millet, qui est l'actuel vicaire général du diocèse. Il faut un cœur de prêtre et de pasteur pour voir dans chaque personne rencontrée, particulièrement chez les pauvres, les prisonniers, les sans-abri, les malades, les gens du voyage et tant d'autres misérables, la personne du Christ à servir, aimer, encourager, visiter. Et puis à la fin de son homélie, que cette charité qu'il a cherché à vivre et enseigner lui ouvre aujourd'hui les portes du ciel. Merci beaucoup Gilles Chevriot. Je rappelle le titre de votre livre, l'abbé Jean Gauzin, 69 ans de sacerdoce au service de tous, paru aux éditions Edicos. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry avec l'aide de Florian Oz. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.